Marie Moutier Bitton, bonjour.
Bonjour Elsa Parenté.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous êtes historienne, auteure et titulaire de la chaire d'excellence Holocaust and Genocide Studies. C'est à l'université de Caen. On va partir bien sûr tout d'abord avec vous de cette commémoration, celle des 83 ans depuis la rafle du Veldiv. Peut-être une question un peu naïve dans un premier temps, mais on en a bien sûr tout à chacun beaucoup entendu parler. Pour vous, avec votre regard d'historienne, quelle place elle a cette rafle dans l'histoire de la Shoah? En quoi ça a été un tournant?
Bien, c'est une des plus grandes rafles effectuées durant la Shoah. Donc, c'est 16 et 17 juillet 1942, c'est plus de 13 000 juifs, hommes, femmes et enfants, arrêtés à Paris et dans la banlieue parisienne par environ 4 500 policiers français, donc sur ordre du chef de la police de Vichy, René Bousquet, à la demande des autorités allemandes. Il y a plus de 8 000 personnes qui se retrouvent dans le Veldiv. Parmi ces 8 000 personnes, il y a la moitié qui sont des enfants, c'est considérable. Et ils sont laissés pendant plusieurs jours, sans nourriture, dans une chaleur écrasante, hein, qu'on peut imaginer un peu la structure du vélodrome, avec un seul point d'eau, dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, il y a plusieurs suicides, hein, qui sont répertoriés. Le Veldiv n'est qu'une antichambre de la déportation. La plupart sont ensuite déportés dans les camps d'internement du Loiret, donc de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Et là, un des épisodes les plus tragiques, hein, on pourrait dire, de la Shoah en France a lieu, c'est-à-dire la séparation des mères de leurs enfants. Les mères sont déportées d'abord, et ensuite les enfants sont laissés tout seuls dans les camps d'internement, puis ensuite déportés à la fin août 1942 à Drancy, puis à Auschwitz. Donc, la rafle du Veldiv constitue une des plus grandes rafles effectuées en Europe de l'Ouest durant la Shoah et qui concerne des juifs de toute nationalité, juifs allemands, autrichiens, polonais, apatrides. Mais il faut garder en tête aussi, et ça Laurent Joly, l'historien, le souligne très bien, c'est que de très nombreux enfants, eux, avaient la nationalité française au moment de cette rafle.
Est-ce que l'ampleur qu'a eu cette rafle, ce fonctionnement, entre guillemets, c'est quelque chose qui était propre au régime nazi? C'est quelque chose qui a été vraiment, vous l'avez dit, donc organisé par la police française, mais à quel point c'est une spécificité française ou c'était un fonctionnement qui a été répandu ailleurs en Europe dans l'organisation, entre guillemets, de la déportation des Juifs?
Les Allemands, dans la mise en place du génocide, ont pour habitude de s'appuyer sur les structures locales déjà existantes. Avant ces rafles qui se déroulent en France, il y a eu des précédents, évidemment, en Europe de l'Est. Et par exemple, sur les territoires polonais ou soviétiques occupés, hein, comme en Ukraine ou en Biélorussie, il est tout à fait courant pour les autorités allemandes de s'appuyer sur les milices locales, constituées donc d'auxiliaires ukrainiens, biélorusses, baltes, pour justement repérer la population juive, et parce qu'en plus, ils connaissent les lieux. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est que la police française, comme la police ukrainienne, connaissent le territoire, connaissent la géographie, ils savent à quelle porte frapper. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que les Allemands délèguent aussi énormément ces arrestations, puis les déportations, parce que ils n'ont pas non plus le nombre d'hommes nécessaires pour le faire, mais aussi parce qu'il s'agit d'impliquer le plus possible toutes les forces disponibles, de les mouiller en quelque sorte dans ce processus génocidaire.
C'est une date aussi aujourd'hui qui est particulièrement marquée, car ce sont les 30 ans depuis le discours du président Chirac sur la reconnaissance de la responsabilité de la France quant à la déportation de ces Juifs. Quel impact sur le travail d'historien quand le politique acte une position comme celle-ci? Qui va plus vite en fait entre l'histoire et la politique, et à quel point sur cette question particulière les deux ont pu être liés ou en décalage?
Pour pouvoir travailler correctement sur l'histoire, puis sur la mémoire de la Shoah, il est impératif que justement le politique puisse ouvrir toutes les portes et mettre toutes les conditions nécessaires pour un travail rigoureux et en toute liberté. Ça, c'est essentiel. Et on a une chance très importante en France de pouvoir justement mener ce travail, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux autres pays européens, y compris hein, au sein de l'Union européenne. Donc le discours de Chirac, il y a 30 ans, acte aussi la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs depuis la France, et il ouvre aussi toute une série de politiques mémorielles qui sont évidemment fondamentales hein, pour entretenir cette mémoire des victimes juives. Il s'agit aussi d'autres initiatives comme la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui évidemment joue un rôle essentiel dans ne serait-ce que l'histoire et la mémoire du génocide. Et c'est toute une politique publique qui va justement impulser ces recherches sur la Shoah, et justement la création de cette chaire d'excellence à l'université de Caen en est aussi un des exemples. C'est-à-dire que il n'y a pas de travail historien possible si l'État ne met pas en place les ressources nécessaires pour le faire. Et en France, où on a la chance de pouvoir le faire, c'est pas le cas en Pologne, par exemple.
Cette chaire d'excellence qui n'existait pas, est-ce que c'était une forme d'anomalie? Et aujourd'hui, à quel besoin concrètement vous répondez? Comment ça s'organise, votre travail?
Alors, cette chaire a été créée sous l'impulsion du président de l'Université de Caen, Lamri Adoui. C'est parti du constat qu'il n'y avait pas de chaire consacrée à la Shoah en France. Ça existe dans les pays anglo-saxons, c'est très largement répandu aux États-Unis par exemple. Vous avez aussi quelques chaires de ce type en Allemagne. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enseignement de la Shoah au niveau universitaire, dans le sens qu'il n'y avait pas cette recherche d'excellence menée à l'université. Il s'agit justement de promouvoir aussi cette recherche à l'échelle internationale. Donc, créer évidemment des passerelles avec des historiens américains, avec des historiens européens, des passerelles avec des centres de recherche internationaux comme sur le mémorial de l'Holocauste de Washington ou encore Yad Vashem. Il s'agit aussi de placer la recherche d'excellence française au niveau international.
Est-ce qu'il y a un besoin aussi de se dire il y a des pistes ou en tout cas peut-être des sujets dans le sujet qui n'ont pas encore été explorés et sur lesquels vous aujourd'hui vous souhaitez particulièrement travailler dans le cadre de cette chaire?
Tout à fait. Par exemple, il y a un gros projet franco-allemand qui vient d'être monté avec Sarah Grouchka et Judith Lioncamp qui concerne l'inventaire et l'analyse de tous les journaux intimes de la Shoah. À ce jour, on ne connaît pas le nombre de journaux intimes de la Shoah qui se trouvent dans les centres d'archives. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire cet inventaire et de mettre à la disposition aussi du public ces informations. Les journaux intimes, ce sont des textes qui sont vraiment très importants pour la transmission justement de l'histoire de la Shoah. Ce sont des textes qui proposent une histoire incarnée. Et à l'heure où les tout derniers survivants disparaissent, nous avons aussi besoin de nouveaux modes de transmission. Et ça passe aussi par une histoire à l'échelle humaine, vraiment, de chaque individu. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir retracer ces parcours de victimes à travers leurs tout derniers écrits.
Les modes de transmission, justement, vers les jeunes publics, quand on entend depuis quelques années maintenant tous ces sondages qui nous montrent à quel point la connaissance de la Shoah, en tout cas, est plus très importante chez les jeunes. Comment, là, vous dites qu'il y a une réponse qui peut être apportée à ça? On sait que l'école, bien sûr, ne peut pas tout, mais est-ce que ça vous apparaît comme alarmant et comme un enjeu, voilà, au-delà de simplement l'enseignement de la Shoah, mais un enjeu pour notre société?
Ah oui, absolument, l'enjeu est majeur. Évidemment, il y a l'enseignement dans le cadre scolaire. Il y a aussi les musées, les musées mémoriaux comme celui de Rivesaltes ou encore le camp des Milles, qui jouent des rôles pédagogiques très importants. Mais je crois aussi que c'est aux historiens de se réinventer et de proposer d'autres modes de transmission. Par exemple, il y a cette force des lieux qui est importante. Donc c'est vraiment emmener les jeunes sur les lieux de la Shoah, qu'ils se rendent compte aussi que, comme pour la rafle du Vel d'Hiv, les étapes de la Shoah se sont produites dans un environnement complètement quotidien, c'est-à-dire dans les rues, au su et au vu de tous, avec l'utilisation d'infrastructures publiques. Hein. Le vélodrome d'hiver se trouve en plein cœur du 15e arrondissement de Paris, il ne se trouve pas au milieu de nulle part. Les camps d'internement, comme celui de Bonne-la-Rolande, par exemple, il est collé au centre-ville. Donc, il faut aussi, je pense, utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition, les lieux, les textes, hein, les grands textes, les journaux intimes, ou bien aussi la bande dessinée. Hein, c'est aussi un vecteur qui fonctionne extrêmement bien auprès du jeune public. Et la bande dessinée répond aussi à un besoin de visualisation de ce qu'a été l'histoire de la Shoah et un mode de transmission qui me semble beaucoup plus pertinent que l'usage dévoyé de photos qui auraient été formées par l'IA, par exemple.
Et c'est aussi comme ça qu'on sort de ces utilisations là qu'on entend dans le débat public hein, depuis plusieurs mois maintenant, notamment par exemple du terme de génocide. Est-ce que c'est juste le rôle de la société, des gens qui prennent la parole dans les médias, d'aller remettre de la vérité dans tout ça, ou est-ce que vous estimez que ça peut aussi être le rôle de l'historien, de l'historienne ?
L'historien est là aussi pour rappeler que les mots ont un sens. Les mots ont un sens, les mots aussi s'inscrivent dans un contexte historique. Et ça, il ne faut absolument pas le perdre de vue, et les historiens sont là pour rappeler ça. Alors, évidemment, à utiliser à tout va les termes de génocide ou de résistance vont être petit à petit complètement vidés de leur sens. Et l'idée, c'est que les mots soient utilisés pour décrire des processus historiques et non pas pour répondre à telle ou telle idéologie politique. Et ça, c'est là où l'historien doit veiller justement à l'usage approprié de ces mots.
Dernière question, vous êtes spécialiste de la Shoah, notamment en URSS, dans toute cette zone. À quel point votre travail sur le terrain, notamment dans le cadre de l'association du père Patrick Desbois, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport à l'histoire, à votre façon de faire, d'écrire l'histoire, de pouvoir aller voir ce qui s'est passé et au-delà de ça, d'avoir ce rapport qu'on connaît le père Patrick Desbois, voilà, très, très concret au fait.
Ce que j'ai appris au sein de cette association du père Desbois, c'est la nécessité absolue de se rendre sur le terrain. Donc effectivement, il faut utiliser les archives hein, qui sont à notre disposition, mais se rendre sur les lieux, c'est absolument fondamental pour comprendre exactement comment ça s'est passé, parce que la Shoah s'inscrit aussi dans un territoire, dans une géographie. Et par ailleurs, l'association Yahad Innoum a recueilli de très nombreux témoignages de ses voisins. Et ça, c'est aussi ce voisinage qu'il faut prendre en compte, parce qu'il y a aussi le contexte humain dans lequel s'organise un génocide, et il doit absolument être pris en compte. Il n'est pas seulement les Allemands et les Juifs. Tout ça, il faut prendre en compte cet environnement global pour comprendre réellement tous les mécanismes de la Shoah.